Vous écoutez
RMC. Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Et oui, je suis là, bonsoir à tous, l'after continue jusqu'à minuit en direct, l'after l'émission, hein. Qui dit tout haut ce que le monde du football pense tout bas, Daniel Riolo est là, salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Et Thibaut Leplat également, salut Thibaut.
Camarade, bonsoir.
L'événement ce soir dans l'after, c'est Karim Benzema en Arabie Saoudite. Il a signé, il a montré son nouveau maillot, il a souhaité à tous, enfin il s'est souhaité la bienvenue. On va prendre le temps d'en parler ce soir parce que il faut se poser des questions quand même. On l'a pas encore fait dans l'after. Aller jouer dans un championnat mauvais pour le pognon, est-ce que vous le comprenez? Est-ce que la somme qu'il va toucher est indécente? On va en débattre tout à l'heure à 23h. Et puis, comme on a beaucoup d'after de 2h dans les jours qui viennent, on va également dans quelques jours organiser un grand débat sur la géopolitique de l'Arabie Saoudite. Est-ce qu'ils ont la même stratégie que le Qatar? Est-ce que c'est différent? Comment ça fonctionne? C'est en fait assez différent. Je dois déjà vous le dire. Et c'est intéressant. Décrypter, on le fera dans les jours qui viennent. D'ici là, et d'ici le débat Benzema de tout à l'heure, les infos PSG du jour à suivre. À 22h30, l'interview de Vincent Labrune dans l'équipe aujourd'hui. Il veut le milliard en droit télé pour la Ligue 1. Est-ce qu'il nous prend pour des gogos? Messieurs, je vous pose la question. Vous y répondrez tout à l'heure. J'ai
entendu parler de cette histoire de milliard il y a quelques années.
Oui, le milliard.
Tu sais que ça commence à dater, cette histoire de milliard. C'était donc avant Covid, donc on est en train de parler de 2019, c'est ça, le milliard? 2019, ouais, c'est ça.
Sans oublier l'actu du jour, le mercato également au programme d'ici minuit. Le 32-16 est ouvert pour tous ces sujets. Direct studio sur nos applis RMC et RMC Sport qui est disponible, plus les comptes Instagram, Snapchat, Twitter, Instagram, c'est live de l'after. Et Roland Garros, Eric Salio, l'homme des Night Sessions.
Eric Salio, c'est encore démerdé pour se coucher tôt ce soir.
Salut Eric.
Salut à tous. Elle va être courte celle-là.
T'as pas envie de nous proposer un vrai match un soir, toi?
Je sais pas, j'imagine qu'ils ont Mansour Barami sous la main derrière pour faire une exhibition parce que là, il faut en avoir. C'est terrible.
Non, mais
c'est
terrible. Dis-moi, Eric, c'est quand même assez choquant de voir que le 1 mondial colle une tartasse aussi énorme à, je sais pas, il est combien maintenant, Tsitsipas? 4 ou 5?
5.
Je trouve que le déséquilibre est assez effrayant.
Disons après, que peut-être que Tsitsipas est dans un mauvais jour, non?
Non, il n'est pas dans un mauvais jour. Il se fait détruire.
Il n'a pas le jeu compatible pour Alcaraz, mais on se pose tous la question, qu'est-ce que ça va donner contre Djokovic? Est-ce que Djokovic aura les armes pour contrer cette comète?
Oui, bon, on se posera la question à ce moment-là, et puis après tout, là, pour le coup, ça ne m'embêtera pas trop s'il le détruit comme ça, la vérité.
1h33,
mais les deux premiers sets en 1h6-2-6-1, ah oui, c'est Salio vient au TC16, et c'est ce que je lui mets, quoi. Donc,
c'est du jamais vu. Ouais,
c'est compliqué.
6-2, 6-5.
Lui, il ne relève plus mes provocations.
J'ai quelques connaisseurs dans la rédac d'RMC qui m'ont dit, ah, les gars, ce soir, il va falloir que vous alliez après minuit. Hein. Le match va être long. Hein.
Ah bon, qui t'a dit ça?
Ah non, je ne veux pas les noms. Je ne balance pas.
Je ne demande pas de balancer, je ne veux pas savoir les noms. Mais honnêtement, je ne pensais pas à une telle raclée, mais qui gagne en 3-7, Alcaraz, c'était couru d'avance.
Bon.
Eric Salio n'a pas pu te dire ça. Eric Salio est un connaisseur, il le savait. Il savait que ça serait.
Oui, on se demandait comment Alcaraz allait changer tactique peut-être, mais en fait il a pas d'armes. Alors là il fait des petits coups d'éclat pour sauver un ou deux jeux, mais bon, c'est 1h33 quoi, 6-2, 6-1, 4-1 et ouais, c'est une night session féminine.
Il est abasourdi.
Ah oui, il est KO, mais ça peut t'arriver, Daniel, quand t'es KO. T'as pas de solution, tu sais plus quoi faire, t'as qu'une envie.
Non, moi ça m'arrive pas souvent, mais je vais essayer d'imaginer que ça puisse arriver.
Quand on a joué au début, tu me disais, oh non, mais je peux pas jouer contre toi,
je te respecte trop. Pas très sympa de dire que c'est une night session féminine, je trouve.
Oui, c'est vrai que c'est pas très sympa, d'autant que la dernière était plutôt agréable à suivre.
Exactement.
C'est vrai. 4-2, allez.
D'ailleurs, le tennis applique l'égalité homme-femme. Je ne comprends pas pourquoi il y a beaucoup plus de night session masculine que féminine. Il faudra m'expliquer.
Gilbert, fais pas ton perdreau de l'année.
Là, voilà, tu fais un peu l'innocent, le naïf.
Ah bon, bah écoutez.
Honnêtement, là, Gilbert, là, tu me déçois un peu.
Il y a égalité de prime, il doit y avoir égalité de night session.
Oui, mais là, il ne va pas y avoir égalité de gens pour regarder le match. Là. Ouais. Si tu fais trop de night session, là, ça va être un problème.
Bon, on fera ça dans l'after tennis un jour. Le PSG. Merci Eric, à tout à l'heure. Le PSG, on y va. Les infos du jour sont les suivantes. Info de Loïc Briley, qui suit le PSG parmi les reporters d'RMC. Galtier, c'est fini. Alors, il n'y a pas encore eu d'officialisation du club.
Oui, non, là, t'es dans la rubrique info, là, ou
non, mais
rubrique, c'est les choses qu'on sait depuis 2 semaines. Parce que là,
très bien. Mais quand le factuel arrive, faut le relayer.
Ah oui.
Puisque c'est donc là, ces dernières heures, que Galtier a appris qu'il n'était plus l'entraîneur du PSG. Voilà.
Oui, c'était hier.
Voilà.
Pour être précis.
Luis Campos lui a annoncé officiellement son départ.
Voilà. Donc,
Galtier, attention, on fait savoir, dans, comme on dit, dans l'entourage de Galtier, que désormais on sera très vigilant sur l'aspect juridique de l'affaire. En gros, on veut l'oseille. C'est ce que ça veut dire.
Oui, de toute façon,
c'est la loi française, CDD.
La seule chose qui reste en suspens aujourd'hui, c'est effectivement le montant du chèque qu'il va prendre. Mais à la limite, ça, c'est pas très important. Ce qu'il y a peut-être de plus important à mettre en avant, c'est que c'est au moment où la négociation prendra fin et que donc ils vont se mettre d'accord sur le chèque qu'on apprendra l'identité du nouveau coach.
Ah, pas avant?
Ah ben non. Tu ne peux pas apprendre l'identité du nouveau coach si Galtier n'est pas officiellement viré avec le papier et le chèque.
Bah, tu peux pas l'annoncer, mais l'apprendre, on le saura.
Non. Tu veux dire officiellement, Daniel. Voilà.
En tant que club, tu peux pas le...
La présentation du nouveau coach sera faite quand Galtier sera passé chez Micheline à la compta.
Voilà.
Voilà. À ce moment-là. Ça ne veut pas dire que, parallèlement aux négociations pour la rupture du contrat, Campos ne discute pas avec les candidats ou le coach qu'il a choisi pour faire avancer le projet et pour mettre en place le recrutement et la nouvelle équipe pour l'année prochaine. Évidemment qu'il discute avec des gens, mais il n'y aura pas d'officialisation, de présentation du nouveau coach avant qu'on signe le chèque à Christophe Galtier. Voilà.
Ça fait penser que moi, la relation Galtier et El Khelaïfi, je ne sais pas si vous avez vu Succession. Vous avez vu cette magnifique série incroyable? Il y a deux personnages qui sont un duo extraordinaire.
C'est quoi cette série? Je connais pas.
C'est sur HBO, c'est un mélange entre Le Parrain et Dallas. C'est extraordinaire. C'est une série extraordinaire.
Succession.
Et il y a deux personnages comme ça.
À côté
les gens
ça,
qui l'ont vu vont reconnaître. C'est Greg et Tom. Et Greg, c'est le factotum de Tom. Et Tom, c'est un peu l'idiot du village qui devient le grand chef. Et il a avec lui un espèce de cousin éloigné qui est un type qui fait toutes les bases d'œuvre et qui est un type complètement un espèce de gars qui est l'âme d'année en fait de ce gars-là. Et ça fait un duo assez marrant et je trouve que Campos dans cette affaire-là et notamment il lui demande Tom à Greg d'aller virer des gens. C'est pour le tester, dire bon écoute tu es promu, bravo, tu rentres dans la boîte, bon première mission, tu vas virer 150 personnes. Et c'est un peu ça quoi là, j'ai l'impression de voir bon ben nous on va s'occuper du nouveau coach puis toi tu vas aller virer Galtier hein, puis après tu vas assumer.
Oui, mais là en l'occurrence
c'est vrai que vous avez pas vu parce que c'est vraiment une excellente série.
Non, bah écoute, je suis passé à côté, mais maintenant je vais regarder. Ouais. Mais en l'occurrence, quand
j'ai pas le temps, je travaille.
En l'occurrence, Campos s'occupe.
C'est quand je travaille pas.
S'occupe du nouveau coach. Il s'occupe du nouveau coach puisque c'est lui qui a.
Nagelsmann, c'est lui.
Qui a ses dossiers. Bah, c'est lui. Oui. C'est-à-dire, je comprends pas ta question en fait.
Ça s'est plutôt décidé à Doha, non? C'est plutôt que j'ai pas.
À Doha, il veut plus Campos. Nasser Al Khelaïfi veut Thiago Motta, il paraît.
Alors, aujourd'hui. Qu'on peut dire sur la question, c'est qu'il y a des candidats qui ont été écartés. Luis Enrique n'est plus dedans. Qui en avait, Xabi Alonso n'est plus dedans. Qui avait été mis aussi sur une liste pas short. Mourinho, ça n'existe plus, c'est terminé.
Ah, c'est important.
Luis Enrique.
C'est important. Déjà, je viens de le dire, t'es pas très attentif.
Pardon. Regardez sa série.
T'es dans succession là encore.
Dans succession.
Donc, Luis Enrique, c'est fini. Xabi Alonso, c'est fini. Deux Herbiers étaient sur la liste. Mais il n'y est plus. Et donc là,
Thiago Motta est toujours.
Et qui on a dit, donc Nagelsmann est sur la liste.
Ça fait une liste courte là quand même.
Non, il y a peut-être encore un ou deux noms, mais pas plus.
Bon, ouais, ça fait quand même une liste courte.
Ça fait.
Rappelle-toi, quand Laurent Blanc est pris, il y a au moins 12 ou 13 personnes qui disent non avant qu'on en arrive à Laurent Blanc.
Ça fait un podium, mais un vrai podium, un podium des trois, pas un podium des 5.
Un podium de Louis des 5.
Non, j'aimerais bien réécouter Louis.
Podium des 5 de Louis, ouais. On doit l'avoir. Hommage à Louis qu'on adore.
Donc voilà, donc il doit y avoir les trois noms encore sur la liste de Luis Campos, ouais.
Quand on parlait de Luis, c'était Luis Fernandez, pas Luis Campos.
Oui.
Ok, alors ça, on va en débattre. Hein, le 32-16 est ouvert. Il y a un truc moi qui m'interpelle. En France, on ne fait jamais ce que font les Allemands, par exemple. C'est vrai que Nagelsmann, en fait, il est toujours salarié du Bayern. C'est-à-dire qu'en fait, les Italiens aussi ont déjà fait ça. On te vire pas, on te paye. Et si jamais tu veux partir avant que tu aies une offre ailleurs. Eh ben tu démissionnes mon coco. Parce que c'est genre un peu facile de dire bah tiens tu prends ton oseille, tu prends ton année machin puis 15 jours plus tard tu signes dans un autre club.
Pochettino.
En France on fait pas ça.
Oui, Pochettino il est toujours salarié du PSG.
Aujourd'hui?
Oui, bien sûr.
Pardon?
Il est resté
aujourd'hui toujours salarié du PSG.
Pochettino, toujours salarié du PSG.
Donc il prend son oseille
dans la presse hein.
Ça m'a échappé.
Ça m'a échappé également ça.
Oui. Ça pourrait être le cas avec Galtier aussi.
Quel est l'avantage en fait, je comprends pas ce que.
Mais si, imagine tu as un contrat de 3 ans.
Hein.
Au bout d'un an, on veut se séparer de toi.
Hein.
Le club veut plus de toi.
Hein.
Donc toi, tu dis bah, très bien, payez-moi les 2 ans que vous me devez.
Hein.
Et là, tu dis bah non. tu restes salarié du club. Par contre, si tu veux aller ailleurs, il faudra démissionner.
Mais attends, excuse-moi, Pochettino, il va s'engager avec un club. Il va pas rester sous contrat avec le PSG.
Ah oui, il va donc démissionner.
À donc à ce moment-là, il sera obligé d'accord.
Et oui. Ça fait faire les économies au club.
Pour se libérer, il doit démissionner. Ok.
T'as compris le truc?
Oui. Oui, enfin, si la durée de contrat elle est 2 ans, tu vas pas économiser grand chose hein, finalement dans ton calcul.
Bah, une année de salaire peut-être. Imagine Galtier trouve un club dans 3 semaines.
Je pense que Galtier va se reposer. Il a une année compliquée, je pense.
Bah, souvent d'ailleurs. Il a déjà fait un. Souvent, quand t'as un entraîneur qui te dit je prends une année sabbatique, bon, c'est que tu vois, il y a un truc.
Très bien. Enfin, bon, en tout cas, bref, ouais. Voilà. Il y a ce podium, 3 entraîneurs et un choix qui ne devrait pas tarder à intervenir.
Donc attends, je résume. Aujourd'hui, on en est à. Il y a un courant Qatari et il y a un courant Luis Campos. Est-ce que ce courant Luis Campos est soutenu par Jorge Mendes? Est-ce qu'il y a un courant Qatari, un courant portugais?
Non, en fait, je ne crois pas que
et
ce soit.
Un peu un, tu vois, un bras de fer, non, moi, une lutte d'influence.
Je ne crois pas que ce soit forcément comme ça. Je crois que le directeur sportif, en l'occurrence Luis Campos, a les noms, a fait des études, a préparé les dossiers des différents candidats qui sont étudiés. C'est lui qui est allé à Doha pour défendre et son choix prioritaire et en gros répondre aux attentes des Qataris qui veulent un coach d'une autre dimension que Galtier. Il a proposé les noms. Effectivement, il y aura une concertation. Mota a des avantages, Nagelsmann en a d'autres. Et après, est-ce que le choix final sera fait entre Campos et Doha? Est-ce qu'ils vont s'entendre ou est-ce que un imposera l'idée à l'autre? En tout cas, pour ce qui est du choix des 3 derniers là qui restent. Les trois sont dans les petits papiers de Campos.
Campos n'est pas en position de force pour imposer un coach à l'heure actuelle, parce que la Galtier s'est avérée quand même plutôt un fiasco. Si je puis dire, un fiasco avec un titre à la fin, mais une saison vraiment dont tout le monde s'accorde à dire qu'elle était quand même plutôt un échec. Donc je pense qu'en interne, il est moins en position de force que son arrivée où il a pu maintenir et proposer un coach.
Je pense que sur ce nom, effectivement, il y a eu erreur, on est tous d'accord. Les trois qui sont encore sur la liste là, on parle de 3 vrais coachs, de 3 pointures internationales. Alors on va me dire oui, Mota, pointure et internationale, Mota, il vient de Bologne,
pointure italienne, on va dire pour
meilleur entraîneur du mois de février.
Bon. Ouais, il a pas encore d'expérience au niveau, mais si tu prends les différentes notes que tu peux lui mettre sur expérience de joueur, expérience d'entraîneur international, il y en a pas. Expérience de joueur, là en l'occurrence c'est beaucoup plus élevé, mais sur différents critères, il va en remplir quelques-uns. C'est quand même maintenant un entraîneur qui en Italie a une vraie cote et est demandé par pas mal de grands clubs.
Thiago Motta, c'est pas un choix sportif.
Tu sais, quand tu choisis un entraîneur comme ça, genre, c'est pas juste au pif quand même. Tu fais des études sur le jeu qui est pratiqué, sur qu'est-ce que le mec met en place. Tu regardes déjà. Regarde, quand Pablo Longoria t'explique que le coach qu'il veut pour l'OM doit répondre à certaines considérations en termes de jeu. Il parlait hier d'un coach, je sais pas quel qualificatif il avait employé. Il voulait un coach un peu rock'n'roll pour que ça mette le feu, on va dire, au Vélodrome. Donc ça veut dire que Pablo Longoria étudie les possibilités et qu'il dit
Une fois que l'entraîneur a choisi, on donne les raisons pour lesquelles on l'a choisi.
Non, je pense que
la force de Longoria, c'est qu'il dit avant, il donne ses critères, ensuite tu peux examiner ton choix, regarde ses critères.
Mais je pense qu'au PSG, si l'année dernière il y a eu une erreur sur le choix, parce que là visiblement j'ai pas trop compris quels étaient les critères pour prendre Galtier, là, de ce que je sais cette année, on a envie d'un entraîneur qui va réellement imposer, une marque en termes de jeu. C'est, je pense, un entraîneur qui aura des idées très claires
sur le jeu. Comme on l'a dit pour Pochettino, qui était présenté comme le nouveau Bielsa.
Alors ça, c'est un autre aspect, mais je te signale quand même que Tuchel a imprimé quelque chose quand il est arrivé.
Comme Emery aussi.
Ça n'a pas duré. Emery a essayé, il a été rapidement mangé par les joueurs. Donc, en fait, quel va être le problème? C'est celui qu'on évoque très souvent.
Il va se passer la même chose, hein. Je le dis.
Il se passera pas la même chose. Tout dépend de qui y aura dans le vestiaire.
Tant que tu fais pas un bilan sérieux de ce qui se passe au Paris Saint-Germain, de la gestion sportive du Paris Saint-Germain, de la manière dont s'est passée cette saison, du fond que tu as touché cette saison, tant que tu fais pas un audit sérieux de ça, que tu assumes
pas. Et qui te dit qu'il est pas fait?
Mais il est pas fait publiquement, donc à quoi il sert?
Mais pourquoi il faudrait qu'il soit fait publiquement?
Parce que ça concerne pas que 10 personnes, le Paris Saint-Germain, ça concerne 10 millions de personnes.
À partir du moment
qui suivent.
Ce serait déjà intéressant,
c'est ce que fait Longoria.
Longoria
l'a fait hier, donc.
C'est parce que Longoria décide de parler publiquement que d'abord.
Non, mais en termes d'intelligence et en termes de gestion, je pense que Longoria est quand même. Fait ses preuves, au moins, c'est déjà
un. Thibaut, qui te dit que dans 15 jours, ça sera pas fait?
Ah ben on aura l'interview de Nasser dans le Parisien qui veut nous expliquer c'est la fin du bling-bling. C'est une belle stratégie ça.
Qui te dit que, ben alors, excuse-moi, mais qui te dit que dans 15 jours tu n'auras pas une personne du club pour t'expliquer pourquoi on a choisi cet entraîneur, pourquoi on va renouveler ça. Profondément l'effectif.
Et quels sont
les joueurs qui vont arriver.
L'exercice de transparence qui a été fait par Longoria. Je sais que j'ai été très critique cette saison sur Twitter. L'exercice de transparence qu'a fait Longoria, à savoir de se mettre devant 25 journalistes sans les questions préparées pendant une heure et demie, et vous pouviez poser toutes les questions que vous voulez. Ouais. Ça, le jour où ça arrive au Paris Saint-Germain, là, je me lève en premier et j'applaudis.
Moi, ce qui va m'importer.
Et pas une interview faite par.
Il y a un autre,
ce qui m'importera avant ça. Cet exercice de transparence qui, à mon sens, est quand même, peut également être un petit peu factice. Ce qui va m'importer, moi, c'est de savoir.
Une heure et demie devant 25 journalistes, ça se voit. Hein,
ce qui va m'importer, si tu permets, c'est de savoir qui va venir, comment ils vont sortir les joueurs qui sont des points morts dans le vestiaire depuis des années maintenant, et quand on t'annonce qu'il va y avoir 7 à 8 nouveaux joueurs, je pense que le renouvellement du vestiaire, il va quand même intervenir. Donc déjà, si tu as un renouvellement du vestiaire...
Qui incarne ça, Daniel? Qui le dit? Mais t'es pressé? Ah bah oui, je suis pressé, c'est bientôt, ça commence.
Moi aussi, Dans un instant, continue le débat, je suis pressé, mais je ne présage pas
que ça ne va pas arriver.
Dans un instant, Gabriel avec nous au 32-16, et puis on va parler de Luis Campos, parce que tu sembles quand même conforté dans tout ce qui se passe là. Tu le diras, Daniel, ce que tu en penses.
Oui, il l'est.
Dans un instant, le débat continue, et puis ensuite on débattra de l'interview de Vincent Labrune et du milliard qu'il promet, ce qu'il faut le croire, sans oublier le grand débat autour de Benzema en Arabie Saoudite tout à l'heure à 23h. À tout de suite dans l'after.
RMC jusqu'à minuit.
L'after foot.